J'y n'ai rien, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce premier numéro consacré au RPG A Day 2018. Alors un petit point juste avant de commencer avec les questions du RPG A Day. Du fait d'avoir enregistré à peu près 1h45 de réponses aux 31 questions de ce challenge, j'ai pris la décision en fait de le diviser en trois parties, d'une demi-heure à peu près chacune, et de diffuser les différentes parties au rythme de une partie par semaine. Alors au cours de cette première émission, vous allez avoir les réponses aux questions numéro 1 à 7, et donc on va parler de qu'est-ce que l'on aime dans le JDR, des PNJ récurrents et mémorables, mais également de la façon de rendre les enjeux plus importants. Bonne écoute à tous, et à tout à l'heure. Le mois d'août de cette année a été consacré, comme chaque année, au RPG A Day, et avec un peu plus d'un mois de retard, je m'y mets. Pour plusieurs raisons, ça a été un peu compliqué, d'une part, d'enregistrer une réponse par jour durant le mois d'août, donc ça, j'ai abandonné l'idée. Il y a eu Thomas Munier qui a fait un podcast où il a répondu aux 31 questions d'un coup et c'était plutôt fun. J'ai essayé aussi de mettre en place un autre dispositif pour ne pas être en solo. Et finalement, l'idée m'est venue de partir d'une phrase qu'on a tous en tête en tant que rôliste, à savoir que il n'y a rien de plus chiant qu'un rôliste qui te raconte sa partie. Pourquoi je dis ça? Parce que cette année, dans le RPG Day, il y a quand même beaucoup de questions qui sont consacrées à la pratique de jeu de rôle, aux souvenirs, etc. Là où, en 2017, c'était beaucoup porté sur les jeux. Et donc, je me suis dit, si un rôliste, ça l'embête quand on lui explique ce qu'on a vécu dans une partie, ben est-ce que à un novice, et à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, quelle sera sa réaction ? Est-ce que ça va lui donner envie de découvrir le jeu de rôle, ou est-ce que ça va le faire fuir, comme nous, ça nous fait fuir quand en convention on vient nous voir pour nous raconter la dernière partie du jeu de rôle qu'on a vécu. Alors, pour ça, y a Xavier qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Xavier.
Bonjour Jérôme.
Alors, tu connais rien au jeu de rôle ?
Rien du tout.
Par contre, on va pas non plus se mentir, tu as la curiosité de te demander ce que c'est.
Tout à fait.
Donc, dans mon dispositif, il y a forcément un biais, c'est que je n'ai pas pris non plus une personne lambda qui ne connaît rien au jeu de rôle et qui n'était même pas du tout intéressée. On verra si les réponses à ces questions vont lui en générer d'autres, mais ça, le podcast va nous le dire. Est-ce que t'es prêt ?
Non, je suis prêt.
Allez, c'est parti.
Alors, première question, qu'est-ce que vous aimez à propos des JDR ?
Alors déjà, c'est la question. Alors en fait, ma réponse va être en deux temps, parce qu'en fait, elle a évolué avec le temps. Au départ, c'était de vivre à travers un personnage des aventures, comme on pouvait voir à la télé, dans les romans, ce genre de choses. Et de découvrir, entre guillemets, des scénarios que des maîtres de jeu avaient préparés, et de découvrir les petites astuces, et ce genre de choses. Et ça, c'était la première chose que j'aimais dans le jeu de rôle. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que je préférais plutôt ce qui entourait le jeu de rôle, c'est-à-dire les gens qui étaient autour de la table. Et c'était pas forcément les jeux en tant que tels qui m'intéressaient, c'était plutôt les joueurs qui étaient autour de la table qui m'intéressaient. Au sens où le jeu de rôle, c'est un jeu social, et donc on peut adorer un jeu en particulier, si autour de la table, on est avec des cons, l'expérience sera pas cool. Donc finalement, moi, ce qui me plaît le plus, c'est... Alors, je vais exagérer un peu, c'est le brassage des personnes qu'on peut rencontrer. Alors ça marche bien quand on est en convention, quand on est en association aussi. Quand on joue en cercle fermé, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que ce côté social est pour moi la première des choses. Et c'est vrai que il me semble qu'il y a une question qui va être un peu dessus sur ce que ça nous a apporté. Effectivement, c'est aussi des amis et ce genre de choses. Et parfois... En tout cas, dans ma pratique, ayant une table fermée, je reconnais que le jeu de rôle est presque devenu une excuse, en fait. Et que, avant qu'on commence une partie, il s'est souvent passé une heure et demie à se raconter la semaine qui s'est écoulée. Et qu'au bout d'un moment, on se dit, ce serait bien de jouer parce qu'on s'est retenu pour ça, quand même.
Un moment de convivialité, au final.
C'est clairement ça.
Deuxième question. Quelle est la première chose que vous espérez voir dans un JDR?
J'avais dit hein, que le RPG Day 2018 ne m'inspirait pas, donc soyez pas étonnés par les réponses. Surtout que la question, en fait, est pas suffisamment précise, parce que est-ce que c'est dans un livre de jeu de rôle, ce que j'espère, ou est-ce que c'est dans une partie de jeu de rôle? Alors, on va pas jouer sur les mots. Qu'est-ce que je peux espérer voir dans un jeu
C'est
de rôle?
ça.
Alors, je vais dire du respect. Alors, du respect, en tout cas, on peut traiter de problématiques qui sont sérieuses, telles que le racisme, par exemple, ou les discriminations, à partir du moment où c'est traité de manière intelligente. Et que c'est pas traité de manière vulgaire et ou simplement pour avoir un propos véritablement raciste ou discriminant. On va prendre le cas extrême avec Racial Holy War qui clairement est fait pour des nazillons et des néo-nazis et casser des étrangers, en tout cas dans un jeu de rôle, où là effectivement c'est clairement nauséabond. Mais il y a des jeux qui sont beaucoup plus fins et qui traitent de choses, de thématiques dures, par exemple dans Shan, où on a aussi cette question de racisme qui est traitée, mais qui est traitée de manière intelligente. Donc, ce que j'attends d'un jeu de rôle, en tout cas, c'est qu'il soit respectueux. Je vais forcément inclure l'image de la femme, par exemple. Ça sert absolument à rien de mettre sur la couverture et ou dans les illustrations intérieures du livre des femmes ultra sexualisées uniquement parce que ça fera peut-être vendre un peu plus. Donc ouais, ce que j'attends, c'est ça. C'est un minimum de respect. Et si on devait vraiment répondre au global, c'est j'aimerais que ce respect il se retrouve depuis la conception du jeu jusqu'à la vente du jeu. Alors vous allez me voir venir, forcément, ça veut dire. Quand on fait un financement participatif, on prend pas les gens pour des idiots, on leur ment pas, on les respecte, on leur vend pas le fait de sortir le jeu 3 mois plus tard alors qu'en fait on n'a absolument pas commencé le travail. Enfin, c'est toute cette chaîne de valeur qui pour moi est ultra importante. Donc ce que j'attends vraiment, c'est ça, c'est du respect dans le jeu.
Et au niveau de la partie directement, la première chose que tu t'attends à voir,
Une dynamique sociale.
c'est-à-dire...
C'est-à-dire des interactions avec les gens et qu'en fait chacun trouve sa place dans la partie et pas que chacun fasse son monologue et qu'au final on arrive tous à trouver sa place, on va dire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas plus de grandes gueules et des personnes qui prennent moins sa parole, ça dépend des personnalités, mais que chacun trouve sa place, prenne du plaisir, le respect revient forcément à ce moment-là. Mais que chacun puisse s'exprimer et qu'effectivement qu'il y ait une dynamique en fait et pas chacun jouant dans son coin, ce qui peut arriver, mais bien que chacun puisse s'exprimer et puis s'amuser.
On va passer à la troisième question. Qu'est-ce qui donne à un jeu l'envie de le poursuivre sur une longue période?
Alors, la question des jeux profonds et de ceux qui ne le sont pas. Alors, à l'époque où je faisais beaucoup de jeux traditionnels, on va dire. L'appel de Cthulhu, Donjons et Dragons, etc. Ben, ce qui me donnait envie de continuer, c'était cet univers hyper profond. En fait, ce qui donnait envie, c'était d'explorer cet univers, de découvrir des nouvelles facettes, de découvrir des secrets que je ne connaissais pas, et ce genre de choses. Donc ça, c'est vrai que avoir un jeu qu'on dit, en tout cas comme dirait un Thomas, d'avoir un jeu profond, ben oui, ça permet d'explorer plusieurs facettes dans un même univers. Et ça favorise forcément le fait de faire plein de parties. Après, sur des jeux dits donc propulsés par Apocalypse que je maîtrise depuis maintenant quelques temps déjà, ce qui me donne envie de continuer, c'est le fait d'être inspiré par la thématique, mais également par ce que m'apportent les joueurs. Alors je vais prendre un exemple concret. Ben, le premier jeu que j'ai joué, c'est forcément Apocalypse World, donc celui qui a créer les jeux dits PBTA et on a dû faire je sais pas 5 6 parties avec mon groupe, ça s'est super bien passé. Donc l'inspiration de base c'est Mad Max et ça s'est super bien passé, c'était hyper intéressant. Sauf qu'en fait, c'est pas le style d'univers que je connais vraiment. Et au bout de 5 6 séances, je me suis retrouvé à quasiment devoir recycler des premières idées parce qu'en fait, j'avais aucune idée. Mes joueurs avaient plein d'idées, ils connaissaient ça sur le bout des doigts, et moi pas du tout. Et donc j'ai préféré arrêter la partie là, alors que, à contrario, sur Mask, donc jeu dédié aux super-héros, je suis beaucoup plus à l'aise, c'est des références que j'ai, en plus des références qui sont partagées autour de la table, et effectivement, ça fait plus de, je sais pas, 6-10 séances qu'on joue. Et potentiellement, si on avait envie de pas s'arrêter, on pourrait ne pas s'arrêter, parce que on a créé énormément de choses et de références et de pistes pour la suite, bah, qui nous permettraient d'aller vachement plus loin.
Ok. Quatrième question, PNJ le plus mémorable.
Alors c'est là où on en vient aux questions de souvenirs et les trucs bien chiants, pour les releases en tout cas. PNJ le plus mémorable. Alors le PNJ le plus mémorable, ça a été un PNJ que j'avais créé pour ma campagne de l'Appel de Cthulhu. Alors ma campagne de l'Appel de Cthulhu se jouait dans les années 2000, qu'on était plus proche de Delta Green que de l'Appel de Cthulhu, soyons clairs, et voire même on était plus proche de la série Supernatural que de l'Appel de Cthulhu. Mais bon, ça c'est autre chose. À l'époque, Monster of the Week n'existait pas, donc je faisais du Supernatural avec de l'Appel de Cthulhu. Mais le personnage qui m'a marqué, en tout cas que qui répond bien à cette question, ça a été le rôle d'une d'une commissaire et qui était la chef en fait de l'équipe et qui les missionnait pour aller dans la France découvrir les différents mystères qui se passaient. Et en fait, ce qui était génial avec ce PNJ en fait, c'est que ça m'a permis de commencer, alors avant tous les jeux, toujours pareil, hein, PBTA ou les jeux qui favorisent le drama, à inclure du drama à l'intérieur de l'Appel de Cthulhu. Notamment, j'avais à la table un joueur qui avait un personnage qui était très charismatique, et sur lequel cette PNJ, en fait, elle aussi étant très charismatique, a commencé à flirter. Alors, je dois dire que le premier épisode, on va dire, ou la première séance où ce PNJ a flirté avec le personnage du joueur, ça n'a pas été forcément génial parce que le joueur était sur Skype et les autres autour de la table voyaient bien ce qui se passait, mais le joueur par Skype, ça passait moyen le fait qu'il se fasse draguer. Sauf que ce personnage étant récurrent puisque c'était notamment leur chef, ça a continué. Et au bout d'un moment, le joueur a quand même compris que sa chef était peut-être potentiellement intéressée. Alors au début, il ne savait pas pourquoi. Après, je lui ai juste demandé de regarder sa feuille de personnage et il s'est aperçu qu'il était plutôt beau gosse et qu'il comprenait pourquoi est-ce qu'il pouvait attirer des regards. Et en fait, ça a été hyper intéressant parce que ce joueur qui était vraiment, et qui est encore un joueur très traditionnel, où ce genre de questions et de relations amoureuses ou etc., c'est quasiment du genre de leur jeu en fait. Et ben en fait c'est pris au jeu. Et comme on jouait en campagne, il y avait des séances où, entre deux séances plutôt, je demandais aux joueurs qu'est-ce que vous faites. Et régulièrement, ce joueur me disait lui aussi commençait à flirter avec. Et puis ça a installé une relation entre ces deux jusqu'au fait qu'ils se mettent ensemble en fait. Et c'était pour moi ma plus grande victoire. Me dire que ce joueur ultra tradit pouvait inclure du drama dans un jeu qui ne le faisait pas. Et c'était vraiment, moi ça a été vraiment ce personnage qui a été mémorable, on va dire, parce que c'était ma première expérience, on va dire, de drama sans avoir de mécanique, donc c'était vraiment du pur roleplay et du pur discussion avec le joueur. Et ça m'a vraiment marqué.
Donc là t'es en train de me dire que tu vas au-delà de simplement de la simple histoire du jeu.
Ah ouais, je déteste rester sur les simples histoires du jeu en fait.
Ça c'est intéressant.
Ça je déteste ça. Alors surtout sur une campagne que en plus à l'époque j'écrivais, ce qui m'intéressait c'était oui, le scénario qu'ils allaient jouer. Mais j'adorais les plots secondaires en fait et ce que eux développaient. Parce que chacun avait son petit plot à lui qu'il avait développé. Il y avait un qui flirtait avec la loi, en tout cas qui était à la limite, on ne sait pas trop si il jouait pour le bien ou pour le mal, etc. Et ça m'intéressait vachement d'aller explorer justement ces choses qui étaient en dehors du scénario, bon, en tout cas qui n'étaient pas forcément le cœur du scénario, mais tout ce qui était aux alentours, mais j'adorais ça. Alors quand en plus les jeux... je reviens toujours sur eux, hein, sur les jeux propulsés par Apocalypse, quand ils sont arrivés et qu'ils mettaient au cœur du jeu ce drama, et j'étais aux anges.
En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça doit enrichir toute l'histoire, Ah, et oui. Donner un plus sur la psychologie des personnages.
Ah mais oui, enfin franchement, c'est une campagne mémorable. Je sais que Vincent régulièrement me dit que ça fait 6 ans qu'il attend la suite de la campagne. Donc je sais que les joueurs sont en attente de ça. Après, je suis plus sûr d'être capable de jouer de cette manière. Mais oui, je sais que cette campagne a marqué les joueurs qui l'ont joué en tout cas.
Question numéro 5, PNJ récurrent favori, avec favori au pluriel.
Ouais. PNJ récurrent favori. Alors là, je suis déjà obligé de revenir pareil, il y a des années en arrière, puisque une des règles du toujours des PBTA, c'est de sacrifier ses PNJ, donc les PNJ récurrents dans les PBTA, c'est un peu c'est difficile. Donc faut que je revienne sur les vieux jeux. Alors je vais pas redonner la commissaire parce que bon, ça fait un peu double question, enfin, double réponse pour la même question quand même.
Après, si tu en sacrifies beaucoup, forcément il en reste peu de récurrents. Hein.
Ben c'est un peu le souci ou pas le souci, hein, mais en tout cas c'est pour générer du drama. C'est sûr que quand ton personnage soi-disant principal meurt au bout de 10 minutes, ça change radicalement l'histoire. Ouais. Alors personnage récurrent, je sais pas si c'est récurrent, mais il a été récurrent parce qu'on a fait, je crois, 56 séances sur cette campagne. C'était la reine de la campagne Corvosa à Pathfinder, qui a été très très présente en fait, puisque bah elle était le fil rouge de la campagne. Donc sur 56 séances, vous imaginez bien que elle est revenue quelques fois. Donc oui, j'aimais bien parce que j'aimais bien l'histoire de ce personnage, en fait, et surtout l'évolution qu'il y a eu durant la campagne, en fait, où les personnages, au début, sont missionnés par elle pour être des gardes de la ville, chose assez classique, et puis ensuite, les personnages s'émancipent un peu de l'influence de la reine, tout ça pour, au final, se retourner contre elle, quoi. Et le personnage était très manipulateur, en fait, et c'était hyper intéressant. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer d'une part cette campagne et ce personnage de la reine, je crois que c'était Iléosa, je crois qu'elle s'appelait, et c'était bien fun parce qu'elle était vraiment dans un mode de entre guillemets de manipulation séduction sur les personnages avec il faut m'aider à endiguer cette peste, sachant que c'était elle qui l'avait commanditée. En fait, c'était assez bien vu, et puis une superbe campagne. Donc oui, je citerai cette personnage non joueur parce qu'elle était vraiment vraiment très fun, quoi. Jusqu'à arriver à ce que les personnages et les joueurs, je pense aussi, arrivent à la détester et se disent bon, maintenant c'est bon, on peut plus, il faut qu'on la sorte du trône, quoi.
Tu m'arrêtes si je me trompe, mais on dirait que le drama a quand même une place importante dans le jeu de rôle et dans on va dire, l'évolution secondaire des personnages.
Alors, c'est peut-être un biais à cause de moi. Parce que je pense que tu parlerais à beaucoup de rôlistes que je qualifierais de traditionnels. Le drama n'existe pas chez eux et n'a pas de place, en fait. Donc, c'est une manière de jouer. Moi, c'est plutôt ma manière de jouer, effectivement. Mais c'est pas représentatif du jeu de rôle. Voilà. Il y a des rôlistes qui vont être là dans l'optique de juste, il y a un scénario avec un début et une fin, faut faire le scénario. Et j'ai joué comme ça durant très longtemps. Hein. Et puis après, j'ai eu d'autres envies. Mais je pense que c'est aussi dû à l'évolution aussi de la télé, où les séries américaines sont arrivées avec quelque chose de très développé, avec un plot principal et des plot secondaire pour justement étudier la psychologie des personnages, les enrichir et ce genre de choses, et ça, j'adorais ça. Donc j'ai commencé à en mettre dans mes jeux de rôle parce que c'est ça qui me plaisait à la télé. Mais je comprends parfaitement qu'il y ait des maîtres de jeu et des rôlistes qui, pour eux, mettre du drama, ça les intéresse pas. Donc je veux pas non plus donner une image du jeu de rôle comme étant le jeu de rôle, c'est du drama. C'est une des façons de le jouer, mais c'est pas la seule.
Question numéro 6, de quelle façon les joueurs peuvent-ils aider à rendre un monde plus vivant?
J'ai envie de dire en évitant de faire du hors-jeu, en fait. C'est-à-dire de faire des blagues méta. Et ça, c'est la façon la plus dévastatrice de casser ce que nous on appelle l'immersion. Et pour rendre un monde hors crédible ou réel ou plus immersif, etc., je pense que c'est quand les joueurs commencent à jouer avec l'univers, à vraiment présenter les choses selon le point de vue de leur personnage. Pour te dire, par exemple, la série Kaamelott a tué des jeux de rôle sur la table ronde.
Ah bon ?
Parce que tu peux plus jouer à un jeu sur la table ronde sans qu'il y ait, hein, c'est pas faux, et puis toutes les réflexions de Kaamelott.
Une cuillère et Arthur.
Par exemple. Donc voilà, donc c'est quand les joueurs vont utiliser vraiment ce que l'univers leur propose. Alors ça veut dire, prenons quelque chose de très classique du Medfan, hein, où quand ils vont avoir besoin d'avoir une épée, ils vont aller voir le forgeron et ils vont le nommer, ils vont être capables de décrire comment est-ce qu'ils y vont et où est-ce que se trouve le forgeron, voilà, ce genre de choses. Et ça rend les choses vachement intéressantes. Et surtout, ça donne l'impression que le monde, non pas existe, mais en tout cas, est riche en tout cas. Et bien sûr, alors ça, c'était un corollaire de base, mais quand même, qu'ils apportent aussi des personnages à l'intérieur. Alors des personnages non joueurs, mais qui soient capables de nommer que le guerrier, par exemple, il est un maître d'armes. Je sais pas, que le mage, il a déjà rencontré une sorcière dans la forêt, même si dans l'histoire de base, elle y est pas. Mais tout ça, tous ces éléments pour enrichir l'histoire et enrichir le monde et l'univers dans lequel il se trouve en fait.
Mais du coup, toutes ces informations ne vont pas complexifier le déroulé du scénario ou de se rappeler toutes les informations qui ont été données.
Ah si, ça c'est le grand truc. Après, pendant les séances, tu prends des notes et ce genre de choses pour t'en rappeler. C'est compliqué de réintégrer toutes les idées que peuvent avoir les joueurs, notamment sur la création de personnages, mais quand ils sont créés, ça peut te permettre effectivement d'avoir des pistes pour d'autres scénarios derrière, en fait.
D'accord.
Donc oui, ça l'enrichit, ça le complexifie. Après, j'ai envie de dire, dans la vraie vie, on connaît plein de personnes, et sur 99% des personnes, en fait, on sait pas ce qui se passe quand on les a pas avec nous, quoi. Donc... ça n'empêche pas qu'ils existent et ça n'empêche pas que le monde soit complexe.
Ça fait penser un petit peu à une histoire de Ray Bradbury. Quand l'ordinateur s'éteint, les personnes du logiciel continuent encore à vivre et ont leur propre histoire.
Bah, c'est un peu ça.
On va passer à la question numéro 7. De quelle façon un MJ peut-il rendre les enjeux plus importants ?
C'est de mettre les joueurs face à un dilemme ou face à un choix. En fait, un dilemme, c'est un choix. Mais un vrai choix. On va prendre un truc qui est plus bourrin, entre guillemets. C'est, tu arrives dans une situation où y a une attaque de zombies et tu as le choix de sauver ou la mère ou l'enfant. Qui tu choisis ?
D'accord, là, c'est vraiment un dilemme.
Voilà. Mais c'est un vrai choix. C'est pas, est-ce que tu choisis de sauver la fille puis la mère ou bien la mère puis l'enfant ? Pour que ça ait un intérêt, il faut qu'il y ait un dilemme et que le joueur ne se dise pas que choisisse ça ou que choisisse ça, ça changera rien. Et ou bien de créer des faux dilemmes, comme par exemple, tu choisis qui, la fille ou la mère que tu sauves. Mais si tu sauves l'un et que le MJ derrière te dit bon, ne t'inquiète pas, l'autre il arrive et il sauve l'autre. Ok, en fait j'ai fait un choix, ça sert à rien parce que dans l'histoire les deux sont encore en vie. Donc pour rendre des enjeux importants, il faut qu'il y ait des choix à faire et qu'ils aient bien sûr des conséquences derrière. Parce que effectivement, si t'as pas de conséquences parce que les deux ils sont encore en vie, en fait j'avais pas de choix parce que je sauve l'un, l'autre aurait été sauvé et en plus ils sont encore en vie. Alors qu'effectivement, si t'as choisi la mère ou l'enfant et que l'autre vraiment meurt, dans l'histoire ça va changer radicalement.
Puis en plus ça peut être intéressant de choisir l'un ou l'autre. Ça va changer complètement l'arc scénaristique.
Ah ben oui, mais il faut pour que l'enjeu ait un intérêt, il faut qu'il y ait un vrai enjeu. Et donc, il faut qu'il y ait un choix et des conséquences derrière. Le summum, entre guillemets, c'est quand tu rends cet enjeu personnel au personnage. C'est-à-dire que ce soit que en fait, que le personnage qui va devoir choisir, donc en l'occurrence le personnage que tu incarnerais, tu sois en fait le père de famille. Et est-ce que tu sauves ta femme ou ta fille? Là, c'est le summum.
Ah, voilà.
Parce que là, l'enjeu, il est réel, avec un dilemme, Et en plus, il t'est personnel. Or, personnel au sens du personnage, on est d'accord, hein, pas au sens de toi Xavier ou moi Jérôme, hein. Mais il est personnel. Et au personnage. Et donc, c'est là où t'as les enjeux qui sont au maximum. Parce que si t'as un GI qui arrive, qui a aucun lien émotionnel avec les deux personnages, tu vas faire un choix, ça aura un impact. Ok, il y a quand même un choix, il y a un dilemme, parce que quand même, et il y aura une conséquence, il y a bien de l'enjeu. Mais si tu veux remettre une surcouche, il faut que le GI, ce soit le père de famille, et qu'il doit choisir entre sa femme et sa fille. Voilà.
Oui, pas un bête choix statistique de robot, au final.
Exactement. Bah, tu peux le faire, mais...
On est dans un autre film, là.
Voilà.
Alors j'espère que cette première partie du RPG Day 2018 vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager si vous le souhaitez. Dans la deuxième partie, on répondra aux questions 8 à 15. Et donc, ça nous permettra de parler de la manière d'attirer plus de gens dans le hobby, mais également d'avoir des concepts fous de personnages, et enfin de parler notamment d'une expérience de jeu délicate qu'on a pu apprécier. À bientôt tout le monde, ciao ciao.